Alors, bon après-midi tout le monde. Ça fait toujours plaisir de vous revoir tous. Alors, frères et sœurs, nous sommes tous revenus de la fête avec des images, des photographies d'un monde merveilleux, d'un monde à venir, du royaume de Dieu qui sera établi sur terre, avec les saints qui vont régner avec Christ, un temps de grande paix et de bonheur. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce au juste qui crée le bonheur? Un bonheur durable. Vous savez, nous vivons dans un temps où nous ne voyons pas beaucoup de bonheur autour de nous. Nous sommes revenus de la fête des tabernacles. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes heureux de revenir dans le monde qui a été en quelque sorte construit par Satan? Ou peut-être même, est-ce que vous revenez à votre travail qui est aussi au sein du monde? Je pense que la majorité d'entre nous regardons autour de nous, spécialement lorsque nous revenons de la fête, après avoir été à la fête, et nous voyons beaucoup de gens qui sont malheureux. Tout spécialement si vous avez, entre autres, à traverser certains aéroports un peu partout à travers le monde. Je sais qu'à Cincinnati, nous avons eu un délai de 6 heures. Et j'ai vu beaucoup de gens, entre guillemets, qui étaient malheureux ou de mauvaise humeur parce qu'ils étaient obligés de prendre d'autres arrangements. Bien entendu, nous étions en quelque sorte bénis de pouvoir poursuivre notre route jusqu'à Snowbird. Lorsque nous regardons notre monde aujourd'hui, ou que nous lisons les journaux, nous sommes en mesure de voir beaucoup de choses qui ont été brisées. Des gens qui sont brisés, des foyers qui sont brisés, l'économie qui est en déroute et qui est brisée. Vous voyez toutes sortes d'individus qui sont malades ou qui physiquement sont brisés. Les marchés économiques, bien entendu, la plupart des gens ne sont pas tellement heureux d'avoir mis leur argent dans le marché, dans les marchés financiers. Dans environ 10 jours, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de politiciens qui vont être malheureux. Ça, c'est une chose absolument certaine. Et on peut même dire que la moitié des gens vont être des gens qui vont être aussi malheureux, n'est-ce pas? Mais la question que je me pose, est-ce qu'il existe vraiment des principes que nous pouvons utiliser qui pourraient nous rendre heureux? Est-ce qu'il y a des principes que nous pouvons adapter dans notre vie qui pourraient, si nous continuons de croître en harmonie avec ceux-ci, nous rendre heureux? Eh bien oui, je vous le dis, il y en a. Donc aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur 7 de ces principes qui nous permettent d'établir un bonheur durable. Est-ce que ceux d'entre nous qui sommes dans l'Église de Dieu aujourd'hui devrions être heureux? Rendons-nous dans psaume 146. Nous allons acheter un coup d'œil à des psaumes pendant une minute ou deux. Psaume 146 et au verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Et jetons également un œil sur le psaume 144, un peu précédemment, au verset 15, le dernier verset. « Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Et allons en voir un autre maintenant, dans psaume 128. Psaume 128 et au verset 1. Psaume 128, 1. « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Alors, nous pouvons voir ici un fondement du bonheur. Pourquoi le peuple de Dieu devrait être heureux? Il devrait l'être s'il met sa confiance en Dieu, dans le psaume 128.1. Poursuivons même au verset 2. « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Alors nous voyons donc qu'il y a au moins 3 passages différents qui nous disent qu'en tant que peuple de Dieu, nous devrions être heureux. Donc si nous devons définir le bonheur, d'après ce que nous venons de lire ici, ça signifie tout simplement être béni. Si nous allons chercher une définition du dictionnaire, alors le mot bonheur signifie tout simplement contentement, plaisir, joie, jubilation, délice, etc. Et cela nous permet de voir que le bonheur est quelque chose en soi qui est tout de même assez rare, n'est-ce pas? Lorsque vous regardez les gens alentour de vous, comme j'en ai parlé tout à l'heure en traversant les aéroports, Vous voyez beaucoup de gens qui ont le regard vide. Ils semblent être dans une espèce de chaos confus, si je peux m'exprimer ainsi. Dans notre monde aujourd'hui, nous sommes dans ce genre de chaos confus-là. Les gens ne savent pas comment être heureux. Et c'est une chose qui est très précieuse d'avoir le bonheur, de posséder le bonheur. J'aimerais vous lire plusieurs définitions du bonheur qui ont été données par des gens qui ne sont pas dans l'Église de Dieu et dont vous avez sans doute entendu parler de temps à autre, peut-être pendant que vous étiez à l'école ou n'importe quelle autre situation. J'aimerais vous donner une espèce d'aperçu, par exemple, de ce que cet ancien penseur qui était Aristote disait au sujet du bonheur. Laissez-moi vous donner en fait la définition qu'il en donnait. Il disait que c'était le plus haut des biens atteignables par les actions des hommes. En plus, il disait que le bonheur était le bien ultime, la fin, le but de chaque action. Voilà la vue d'un individu au sujet du bonheur. Voici un autre individu qui a essayé d'établir quelque chose de plutôt intéressant. Cet individu-là a essayé d'appeler ça le bonheur national brut, un nouveau concept. Le bonheur national brut, d'après lui, c'est la tentative de définir la qualité de vie en termes psychologiques et globaux, ou holistiques, comme on dit, un peu comme le produit national brut. Ce terme a été en quelque sorte inventé par le roi du Bhoutan, M. Wang Chuk, en 1972, à la réponse aux critiques que son économie ne croissait pas vraiment rapidement. Cela avait pour but de définir son engagement à construire une économie qui respecterait la culture unique du Bhoutan, qui était basée sur les valeurs spirituelles bouddhistes. Ce BNB contenait quatre parties. Les quatre piliers du BNB sont la promotion d'un développement socio-économique soutenable et équitable, la préservation et la promotion des valeurs culturelles, l'établissement d'un bon gouvernement, et la conservation d'un environnement naturel, peu importe ce que tout cela peut signifier. Mais il y avait quand même l'idée du bonheur national brut, ce qui nous montre que les gens essaient d'être heureux. Ils essaient de trouver des façons de se rendre ou de se sentir heureux en forgeant de nouvelles idées comme celle-là. Voici maintenant un autre article du site internet dont le titre est Edge.org, E-D-G-E.org, et dont le titre de l'article est « Quelle est la nouvelle la plus importante du jour qui n'a pas fait l'objet de reportage? » Si on se dirige directement à l'intérieur de l'article, après quelques paragraphes, celui-ci nous parle de la rupture qu'il y a entre la richesse et le bien-être. Vous n'avez qu'à concevoir ceci comme étant le rêve américain, là. La vie, la liberté, la poursuite du bonheur. Et bien entendu, l'argent achète le bonheur, selon M. Andrew Tobias. Est-ce que tout le monde ne serait pas plus heureux avec toutes les promesses faites par le magazine Sweepstakes, par exemple? Vous savez, un yacht de 40 pieds, un motorisé de luxe ou une femme de ménage personnelle. Tous ceux qui ont vu l'émission « La vie des gens riches et célèbres » savent très bien que c'est la réalité. Et puis, lorsque nous regardons certaines publicités, par exemple, on peut lire « Quiconque dit que l'argent ne peut pas acheter le bonheur ne la dépense pas au bon endroit. » C'est une publicité de Lexus. Mais l'histoire inédite de notre âge matérialiste, dans des pays où presque tout le monde peut se vanter d'avoir la réponse aux nécessités quotidiennes, c'est que davantage de richesse n'a pas autant d'importance qu'on aurait pu le croire. La corrélation entre le revenu et le bonheur est, de façon surprenante, extrêmement ténue, a observé le professeur Donald Engelhardt de l'Université du Michigan. Dans une étude qui a été faite parmi 16 nations sur 170 000 personnes, on s'aperçoit que davantage d'argent procure des retours toujours de plus en plus faibles. La deuxième pointe de tarte, si vous voulez, ou le second 100 000 $ n'a pas le même goût que le premier. Chaque gagnant de la loterie, c'est-à-dire toute personne dont le revenu est plus élevé qu'il y a 10 ans auparavant, et tous les gens très riches que nous rencontrons dans le magazine Forbes, les 100 personnes ou les 100 Américains les plus riches qui ont répondu à cette enquête-là de l'Université de l'Illinois, sont tout simplement un petit peu plus heureux que les Américains moyens, selon le psychologue Ed Diener. Réussir un bon coup apporte une joie temporaire, mais à long terme, c'est un peu comme la santé. Son absence peut apporter beaucoup de misère, mais le fait de la posséder, de l'avoir, ne garantit pas le bonheur pour autant. Le bonheur semble être une chose qui a moins à faire avec ce que nous voulons, plutôt que de vouloir ce que nous avons. Donc, nous avons donc là des idées des gens à travers le monde sur le sujet du bonheur, des gens qui essaient de se sentir mieux pendant le processus d'obtention du bonheur, si vous voulez. Alors maintenant, jetons un coup d'œil sur 7 principes importants que nous pouvons introduire dans nos vies et qui peuvent produire un bonheur durable. Alors, j'aimerais vous présenter ce sujet en commençant à vous conter une histoire au sujet d'un vieux monsieur qui approchait du bureau du médecin avec sa femme qui l'accompagnait. Il était en quelque sorte supporté, étant à peine capable de marcher et d'avancer. L'infirmière, jetant un coup d'œil par la fenêtre, l'a vu s'approcher et elle est sortie dehors. Elle avait beaucoup de sollicitude et a dit « Est-ce que ce gentilhomme a de l'arthrite avec complications? » Et sa femme a tout simplement répondu « Non, c'est seulement un cas de bricolage avec un bloc de béton. » En d'autres mots, frères et sœurs, la majorité de nos problèmes est ce que nous faisons à nous-mêmes. C'est nous qui nous mettons souvent dans des difficultés. Le premier principe très important pour avoir un bonheur durable est simplement le bonheur s'obtient en remettant nos fardeaux entre les mains de Dieu. Le bonheur s'obtient en remettant nos fardeaux entre les mains de Dieu. Chacun d'entre nous avons nos problèmes, nos difficultés, nos peurs, mais la majorité d'entre eux, c'est nous qui les causons. Mais ce que nous devons faire, c'est nous présenter devant Dieu et nous décharger de tout ce fardeau-là. Lorsque nous réfléchissons au monde, c'est un monde qui est tout simplement chargé à capacité de problèmes dus au péché. De plus en plus de péchés, de plus en plus de problèmes qui ne sont pas pardonnés ou résolus d'une façon quelconque. Si nous laissons les péchés s'accumuler sans cesse, nous en arrivons à un moment donné à un point de rupture. Notre société est en train de se rupturer, de s'écraser, de se briser. Et elle le fait parce qu'elle a brisé les lois pendant de très longues périodes. Pour nous, en tant qu'individus dans l'Église de Dieu, qui avons des problèmes, nous pouvons nous présenter devant Dieu et nous décharger de ces fardeaux-là et de ces lourdeurs-là, de façon à ce que ce fardeau-là devienne plus léger sur nos épaules. Rendons-nous dans 2 Pierre 2, afin de comprendre comment le monde est aujourd'hui. 2 Pierre 2, verset 7, nous parle comment Dieu a délivré Lot le juste, lui qui était attristé de la conduite de ces hommes sans frein. Les gens du peuple de Dieu peuvent être épuisés par toutes les situations que nous voyons survenir dans le monde aujourd'hui, étant constamment obligés de combattre contre les choses que nous voyons à chaque jour. Que ce soit à l'aéroport, que ce soit sur les différents panneaux de publicité ou à la télévision, nous voyons constamment des choses qui sont contraires aux voies divines et nous devons combattre ces choses-là constamment. Voyez le verset 8 dans 2 Pierre. « Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait leurs œuvres criminelles. » Et jetez un coup d'œil au verset 9. « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » En d'autres mots, nous nous présentons devant Dieu et il sait comment nous délivrer de ce genre de situation-là. Mais qu'en est-il des gens dans le monde qui ont personne vers qui se tourner pour se décharger de ce fardeau et de ces problèmes-là et des difficultés qu'ils ont? Lorsque nous sommes venus à l'Église de Dieu Il nous a aidés à nous décharger et à nous délivrer de ces fardeaux dans nos vies. Rendons-nous maintenant dans Marc 9, Marc au chapitre 9. Parfois, nous avons besoin d'aide avec notre foi, sur notre façon de comprendre. Rendons-nous dans Marc 9 pour un exemple d'un individu qui a demandé à Christ de l'aider. Alors, Marc 9 et au verset 17, Marc 9, 17, « Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Ensuite, le Christ a continué en lui posant plusieurs questions et cet homme pensait que Christ était pour guérir ce jeune homme-là, cette jeune personne-là. Alors, verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Est-ce qu'il nous arrive parfois de nous présenter devant Dieu et de lui demander de venir au secours de notre incrédulité, de nous aider à avoir de la foi et de la force lorsque nous traversons une période difficile, de nous aider à savoir, à nous rendre compte qu'il est vraiment avec nous? Alors, je vous pose la question, quelle partie de votre vie représente la remise entre les mains de Dieu du fardeau qui nous écrase parfois? Cela fait partie de faire confiance à Dieu qu'il va régler les problèmes de nos vies. Il existe ce que nous appelons parfois les dés mortels, les dés qui nous assaillent, que les gens ont. Ces dés-là, c'est les doutes, la désillusion, et le découragement. Les gens se sentent abattus. Et c'est sans doute quelque chose qui nous est arrivé à nous aussi à un certain moment de notre vie, alors que nous étions dans l'Église de Dieu. Donc, lorsque nous nous présentons devant Dieu et que nous lui demandons son aide et de la force, dans le fond, nous nous délivrons de ces dés-là, de ces grands dés-là qui font partie de nos vies. Alors, rendons-nous maintenant dans Hébreux 3, Hébreux, au chapitre 3, et nous allons commencer au verset 12. Hébreux 3 et verset 12. Alors, on peut y lire ici, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par les séductions du péché. » Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il arrive parfois que nous ayons besoin de nous présenter devant Dieu et de lui demander davantage de confiance et de foi en lui, parce que nous vivons dans un monde d'incrédulité. Nous pouvons nous libérer de ce poids-là et lui demander son aide de façon à ce que nous puissions avoir réellement confiance en lui, et non pas nécessairement avoir confiance en nous. Rendons-nous maintenant dans 1 Jean, premier chapitre de Jean, 1 Jean 1 et au verset 9. Alors, 1 Jean, chapitre 1 et verset 9. Parce que le bonheur, c'est d'être capable de nous présenter devant Dieu et de nous décharger de tous nos problèmes et nos difficultés que nous avons dans notre vie. Alors, 1 Jean 1, 9 nous dit la chose suivante. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, tous les problèmes et difficultés de nos vies, nos péchés, nous pouvons nous présenter devant Dieu. Et ils nous sont pardonnés. Ils sont en quelque sorte lavés, effacés. Dieu ne s'en souvient plus. Nous n'avons plus besoin de les porter sur nos épaules. Imaginez, là, réfléchissez à tous les gens du monde qui ne peuvent faire une telle chose. N'est-il pas normal de constater que notre société est en train de s'écrouler? Alors, j'aimerais maintenant vous parler d'un concept que la majorité des gens ont et qui n'est pas tout à fait vrai. C'est le genre de choses qu'on entend souvent, même à la fête. J'entends des gens dire, « Bon, alors la fête est finie, toutes les bonnes choses sont finies maintenant. » Frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui est vrai, ça. Ce que nous devrions dire, plutôt, c'est les mauvaises choses qui arrivent à leur fin. Les bonnes choses de Dieu quant à elles, se poursuivent. La fête va se poursuivre l'année prochaine, voilà, dans le 7e mois, le 15e jour, comme ça a toujours été. Malheureusement, les gens ont souvent cette idée négative que toute bonne chose arrive à leur fin maintenant, une fois que la fête est terminée. Ce n'est pas quelque chose qui est vrai. Nous savons que toutes les mauvaises choses vont éventuellement se terminer et que les bonnes choses, quant à elles, vont continuer. Et c'est le jour vers lequel nos yeux devraient toujours être tournés en tant que peuple de Dieu. Voilà ce qu'est la bonne nouvelle du royaume. Les bonnes choses arrivent et celles qui existent déjà vont se poursuivre et toutes les mauvaises choses, quant à elles, vont tout simplement se terminer. Avoir une fin. Rendons-nous maintenant dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 28. Alors Matthieu 11, 28, juste pour voir comment Christ lui-même a dit que le fardeau que nous devons porter est léger si nous nous déchargeons de nos soucis sur lui. Alors Matthieu 11 et verset 28. Alors ce sont les paroles que Dieu a prononcées pour chacun de nous. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Si nous nous tournons vers Christ, hein, vers Dieu, avec nos difficultés, avec nos problèmes, nous allons trouver certainement que le fardeau a été allégé, et que ce n'est plus un problème comparé à ce qui se vit dans le monde aujourd'hui. Donc, le principe numéro un, le bonheur, c'est de pouvoir se décharger de nos problèmes sur Dieu. Nous arrivons maintenant à un second principe. Le bonheur est un sous-produit de la sagesse. Je le répète, le bonheur est un sous-produit de la sagesse. Le bonheur dans vos vies est donc un sous-produit de la sagesse. Nous allons nous rendre à Proverbes, au chapitre 4, Proverbes 4, parce que la sagesse est nécessaire si nous voulons prendre de bonnes décisions. Cela nous procure du bonheur et du contentement dans nos vies. Alors, Proverbes 4 et au verset 5, « Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire et si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. » Donc, le bonheur est un sous-produit de la sagesse. Elle nous apporte beaucoup de bonnes choses dans nos vies. Nous savons, comme nous l'avons mentionné au début, que dans notre monde actuel, la richesse est souvent associée au bonheur. Nous venons juste de lire un article à ce sujet-là. Peut-être est-ce que ça ne représente pas une question très importante pour certaines personnes, mais pour plusieurs, c'est une question importante. Pourquoi, par exemple? Parce que les gens parient tellement. C'est parce que les gens pensent que l'argent va les rendre heureux. Est-ce qu'il y a beaucoup de gagnants de la loterie qui, en fin de compte, deviennent heureux? J'ai ici un article du site Internet qui s'appelle bankrate.com et j'aimerais vous faire part d'un des exemples qu'il nous donne. J'ai devant moi un exemple d'individus qui ont gagné à la loterie et de ce qui leur est arrivé peu de temps après avoir gagné ces montants-là. Le premier, par exemple, dont le nom est William, il a gagné 16,2 millions à la loterie de Pennsylvanie en 1988. Mais aujourd'hui, il vit sur l'aide sociale. Il dit, « Je souhaiterais que ceci ne soit jamais arrivé. Ça a été un cauchemar le plus total. » Une ancienne amie de fille qu'il avait a réussi en le poursuivant, à obtenir une partie de ses gains. Et ça n'a pas été la seule poursuite dont il a été l'objet. Un de ses frères, qui a été arrêté, avait engagé un tueur à gages afin de se débarrasser de lui en espérant pouvoir hériter une partie de ses gains. D'autres frères et sœurs n'ont cessé de l'ennuyer jusqu'à ce qu'il soit d'accord pour investir dans une entreprise d'automobile et dans un restaurant en Floride. Deux aventures financières qui, en fin de compte, n'ont pas rapporté d'argent du tout et qui ont tout simplement encouragé et aidé à diminuer la qualité des relations qu'ils avaient ensemble. Cet individu a également passé du temps en prison pour avoir déchargé une arme à feu au-dessus de la tête d'un collecteur de taxes. À l'intérieur d'une seule année, il avait maintenant des dettes qui s'élevaient à 1 million de dollars, et cela après avoir gagné 16,2 millions l'année précédente. C'est quelque chose d'extrêmement typique. C'est quelque chose qui arrive de façon typique aux gens qui se tournent vers l'argent en espérant qu'elles vont leur accorder le bonheur. Il vit aujourd'hui sur une allocation de 450 $ et il doit se nourrir à l'aide de programmes gouvernementaux spéciaux. Je suis fatigué. J'ai plus de 65 ans. Je viens de subir une opération très grave pour un anévrisme au cœur. Les loteries ne veulent plus rien dire en ce qui me concerne. Alors, c'est une façon difficile d'apprendre des choses, n'est-ce pas? Il a fait preuve d'un manque de sagesse ici. Alors, rendons-nous maintenant dans Proverbe 16, 16. Proverbe 16, chapitre 16 et verset 16. Alors, le proverbe nous dit, « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? » Peut-être que la personne qui est avec vous aimerait mieux dire, par exemple, que c'est bon d'avoir un héritage, dont nous allons parler un peu plus loin, qu'il est bon d'avoir un héritage avec la sagesse, que c'est une bonne chose. Mais sans sagesse, même si vous avez de l'argent et des gens qui gagnent à la loterie, ça peut devenir tout simplement un désastre dans leur vie. Alors, on peut se demander d'où vient la sagesse. Alors, nous allons nous rendre dans Jacques maintenant, au premier chapitre, Jacques 1, parce que le bonheur est un sous-produit de la sagesse. Alors, Jacques 1 et verset 5, Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors nous venons de voir qu'il est important que nous demandions la sagesse, mais avec foi. C'est de là que vient la sagesse. Alors, allons voir maintenant quelques autres exemples sur la façon dont la sagesse peut être avantageuse pour nous, peut nous aider à être heureux. Rendons-nous dans Ecclésiaste, au chapitre 7 et au verset 4. Ecclésiaste 7, Ecclésiaste 7 et verset 4. Alors, on peut lire, « Le cœur des sages est dans la maison de deuil. » Et le cœur des insensés dans la maison de joie. » Alors, parfois, on s'imagine que les gens sont heureux, tout simplement parce qu'ils sont légers ou un peu écervelés, ils sont toujours en train de s'amuser ou ils sont en party. Vous pouvez être heureux tout en étant très sobre. Vous pouvez comprendre la vie profondément, ce qui vous donne en soi un sens de contentement et de bonheur intérieur. Il n'est pas obligatoire que la joie soit toujours quelque chose qui est exprimé de façon visible alentour de vous. Ce n'est pas parce que vous êtes heureux que vous êtes toujours obligé de donner un spectacle alentour de vous et de faire un peu le bouffon. Il est possible que vous soyez très sobre tout en étant très heureux à l'intérieur de vous-même. Et on continue maintenant au verset 5, Ecclésiaste 7, 5. « Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. » Et au verset 11, « La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. » En réalité, la version anglaise nous dit quelque chose comme « La sagesse est bonne lorsque nous recevons un héritage. » Alors, nous voyons que Il est possible pour nous de recevoir un bon paquet d'argent, par exemple, dans nos vies, et d'être quand même heureux si nous utilisons la sagesse. Mais il est absolument vital de posséder la sagesse. Et ensuite, on poursuit au verset 12, « Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. » La version anglophone nous dit, « La sagesse est une défense, tout comme l'argent en est une. » Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. En réalité, c'est vrai, la sagesse nous donne la capacité d'utiliser toutes les choses que nous avons dans notre vie d'une bonne façon et d'être heureux d'une façon équilibrée. Descendons maintenant au verset 19 dans le même chapitre et lisons. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Alors, cela signifie que la sagesse vous donne dans votre vie beaucoup de force et de puissance. Ici, dans le passage, on parle bien entendu de force physique, mais la force mentale est de beaucoup meilleure que d'avoir tout simplement la force physique. Alors rendons-nous maintenant dans Ecclésiaste toujours, au chapitre 9 et au verset 13. Alors, Ecclésiaste 9, 13. Alors l'Ecclésiaste poursuit en disant, « J'ai aussi vu sur le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit, et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, « La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. » Mais prenez note du verset 18 ici. « La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. » C'est le genre de choses que nous voyons arriver presque à chaque jour, n'est-ce pas? Un seul pécheur peut détruire beaucoup de biens qui a été accompli. On prend une personne, par exemple, qui conduit en état d'ébriété. Une personne qui a un pistolet ou un revolver en plein milieu d'une foule, ou une personne qui porte une bombe sur lui et qui se rend au milieu d'un groupe de personnes. Oui, on peut facilement dire qu'un pécheur peut détruire beaucoup de biens. Mais la sagesse est la chose qui est importante pour chacun de nous. C'est ce que nous devons avoir. Alors rendons-nous maintenant dans Proverbes. Proverbes au chapitre 12 et au verset 15. Proverbes 12 et verset 15. Alors, il est écrit ici, « La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute tes conseils est sage. » Une personne qui est prête à acquérir la sagesse en écoutant les conseils des autres personnes devient ou est sage. Je me souviens d'une couple d'exemples que mon père me donnait quand je grandissais. Alors, parce que j'aimais les sports, il m'avait donné le conseil suivant. Il m'avait dit, « Ne joue pas au football. » Parce que si tu veux jouer au baseball et au basketball, si tu joues au football, tu vas te blesser au genou et tu ne seras pas capable de faire les deux autres sports. Je dois avouer que je suis très content d'avoir suivi son conseil. Je connais plusieurs personnes qui jouent au football et qui se sont brisées, qui se sont blessées au genou. Et bien entendu, ces personnes-là n'étaient plus capables de courir correctement. Ils ne pouvaient plus jouer au basketball non plus, ils ne pouvaient plus sauter, ils ne pouvaient plus courir comme ils le faisaient auparavant. Il m'a aussi dit quelque chose de différent. Tu deviens comme les gens auxquels tu t'associes. Et il est important que nous réalisions que ceci représente beaucoup de sagesse encore. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans notre société qui ont été attirées par des individus avec lesquels ils se sont associés, et cette façon, ce comportement-là les a mis dans le trouble, dans les difficultés, leur a causé beaucoup de difficultés. Rendons-nous maintenant dans Proverbes 2, et nous allons commencer en lisant le verset 10. Proverbes chapitre 2 et au verset 10. Verset 10, « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. En d'autres mots, frères et sœurs, nous pouvons voir que la sagesse est capable de nous délivrer des mauvaises personnes, des gens qui veulent nous entraîner aux mauvaises choses. Si nous utilisons cette sagesse-là, si nous prenons des décisions qui sont sages, il est possible pour nous d'avoir des vies qui sont heureuses. Donc, le principe numéro 2, c'est le bonheur est un sous-produit de la sagesse. Allons maintenant au troisième principe. Le bonheur, c'est d'avoir la satisfaction dans le travail et les loisirs. Alors, rendons-nous d'abord dans Jean. Jean au chapitre 5. Jean, chapitre 5 et verset 17. Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Autrement dit, je travaille. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Verset 20, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Et le verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Alors vous pouvez constater ici qu'il y a du travail impliqué. Le Christ travaille, le Père aussi travaille. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de son propre travail, au sujet de sa propre création? Rendons-nous dans Genèse, au premier chapitre. Genèse 1. Est-ce que Dieu était satisfait de son travail? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est satisfait du travail qu'il fait aujourd'hui? Alors, Genèse 1 et au verset 24. Genèse 1, 24. Alors, Genèse 1, verset 24, « Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et au verset 27, il est écrit, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et voyez le verset 31 maintenant. « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. » Donc, nous pouvons voir que ce que Dieu avait créé était très bon. Dieu était satisfait de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait créé. Il éprouvait beaucoup de satisfaction et cela le rendait heureux. C'était quelque chose qui était très bon. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez dire au sujet de votre travail? Ce que nous faisons chaque jour, est-ce que nous pouvons dire c'est quelque chose de très bon aujourd'hui? Est-ce que nous trouvons de la satisfaction dans ce que nous faisons? Rendons-nous maintenant dans Psaume 111 au verset 10. Psaume 111 au verset 10. Parce que nous vivons dans un monde où la majorité des gens n'ont pas de satisfaction réelle dans le travail qu'ils accomplissent. Ils n'ont pas vraiment de plaisir à ce qu'ils font. Dieu, lui, a la satisfaction du travail accompli. Nous sommes faits à son image. Il nous a appelés au sein de son Église. Donc, nous devrions normalement éprouver aussi de la satisfaction dans notre travail. Donc, Psaume 111, et nous allons commencer au premier verset. Psaume 111, 1. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. C'est ce que nous faisons lorsque nous chantons des cantiques, par exemple, aux assemblées. Verset 2. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. À la fête des tabernacles, par exemple, nous avons vu beaucoup de ces merveilleuses œuvres que Dieu a accomplies sur la terre. la beauté des plantes, sa création, certains environnements spéciaux que nous avons pu constater et dont nous avons pu profiter. On continue maintenant au verset 5. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance, c'est-à-dire envers nous. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affirmées pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Est-ce que tout ce que nous faisons est fait avec vérité, fidélité, droiture, en ce qui concerne notre travail, ou même dans le jeu, lorsque nous nous amusons? Voyons le psaume 111 maintenant, toujours au verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent, en parlant des commandements, tous ceux qui observent ces commandements ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. En d'autres mots, Dieu a beaucoup de plaisir à voir et à constater l'œuvre de ses mains. Et il l'a fait pour que nous en profitions également. Est-ce que nous pouvons dire la même chose à notre propre sujet, au sujet du travail que nous accomplissons? J'ai en ma possession une petite étude qui a été faite et dont j'aimerais vous parler brièvement. Cette étude a été faite par la compagnie ou le groupe qui s'appelle Arbora Global Research Group, et on parle des 10 facteurs qui devraient nous rendre heureux au travail. Je pense qu'ils sont une bonne représentation de ce que ça devrait être. Alors, parmi les différents points, est-ce que nous avons des collègues qui sont amicaux et qui nous aident, qui nous supportent? Le deuxième point, est-ce que nous avons un travail qui est agréable à accomplir? Avons-nous un bon contremaître ou un bon patron? Est-ce que nous avons un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle? Est-ce que nous avons un travail qui est relativement varié? Est-ce que nous avons l'impression ou que nous avons la conviction que nous allons faire quelque chose qui en vaut la peine? Est-ce que nous avons le sentiment que ce que nous faisons fait une différence? Faisons-nous partie d'une équipe qui a du succès? Obtenons-nous de la reconnaissance pour les réalisations que nous avons faites? Et avons-nous un salaire qui est compétitif? Alors ici, nous voyons encore que l'argent n'est pas toujours très important pour les gens, lorsqu'ils possèdent les avantages que nous venons juste de mentionner. Mais la question que je vous pose, est-ce que vous êtes heureux, vous, dans votre travail, dans ce que vous accomplissez, ce que vos mains produisent? Est-ce qu'ils font, par exemple, des produits qui sont utiles et qui rendent service aux gens? Est-ce que les autres personnes sont édifiées par ce que vous produisez? Est-ce que cela leur procure des bénéfices dans leur propre vie? Peut-être est-ce que vous faites quelque chose qui rend la vie plus facile pour les autres, par exemple? Est-ce que vous êtes capable d'ajouter un petit peu de légèreté dans le cœur des gens, au sein du groupe dans lequel vous travaillez? Est-ce que vous les encouragez? Ce serait quelque chose que vous êtes capable d'ajouter à votre travail, la satisfaction des autres lorsqu'ils sont en votre compagnie. Rendons-nous maintenant dans Ecclésiaste 9 et au verset 10. Parce que le bonheur, c'est d'être satisfait dans notre travail et également dans nos loisirs, ou dans nos temps de relaxation, si vous voulez. Alors, Ecclésiaste 9 et verset 10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » En d'autres mots, lorsque nous travaillons, nous devons nous mettre tout entier au travail. C'est la façon d'obtenir de la satisfaction de notre travail. Si vous en mettez beaucoup, vous allez en retirer beaucoup. Comme nous l'avons déjà appris, c'est le principe de cause à effet ici qui est en marche. Mais que se passe-t-il si vous vivez à quelque part et que le travail que vous faites n'est pas si extraordinaire que ça? Êtes-vous toujours capable d'en sortir une certaine satisfaction? Oui, vous pouvez le faire. Rendez-vous dans Proverbe 14, au verset 23. Proverbe 14, 23. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, ou comme le dit l'anglais, un profit. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. En d'autres mots, dans tout travail, il y a quelque chose à apprendre. Je me souviens, il y a déjà très longtemps de cela, alors que je travaillais sur une ligne de montage. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur une ligne de montage. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours très agréable. Toujours la même chose, même chose, même chose. Je me souviens que j'étais en train d'aider à l'assemblage de souffleuses à neige. Je travaillais avec un autre homme et nous avions fait une entente, nous avions passé une entente. Nous voulions faire de notre travail le travail le plus efficace possible. Nous avions l'intention de vraiment réussir dans ce que nous faisions plutôt que tout simplement faire les choses au minimum. Nous avions réussi à inventer une certaine routine, si vous voulez, qui nous permettait de jouer avec certaines pièces, ce qui nous permettait de pouvoir les serrer plus rapidement qu'auparavant. En d'autres mots, cela nous mettait en position d'attente des nouvelles pièces qui arrivaient, plutôt que d'être constamment dépassé par la chaîne qui ne cessait d'avancer. Il y a beaucoup de gens qui restent là debout à parler, à placoter, et à se plaindre de ceci ou de cela, plutôt que d'essayer de faire un bon travail. Nous ne devons pas, en tant que membres de l'Église, en tant qu'enfants de Dieu, agir de cette façon. Si nous avons à affronter une situation difficile parfois, nous devons nous rappeler qu'il y a un certain profit, un certain avantage dans tout travail, si nous sommes prêts à regarder et à chercher ce qu'il est. Qu'en est-il du jeu maintenant? Et là, je parle aux adultes. Nous avons besoin de nous amuser parfois et d'avoir du bon temps. Parfois, je pense que dans l'Église, nous ne jouons pas suffisamment. Du moins, c'est ce que j'ai cru remarquer à certaines occasions. Nous avons besoin d'être équilibrés, n'est-ce pas? Si nous travaillons fort, peut-être est-ce que vous êtes assis à un bureau pendant toute la journée, alors vous avez besoin d'une certaine activité physique pour vous distraire. Peut-être est-ce que vous aimez jouer au basketball, ou au volleyball, ou au tennis. Vous avez besoin de quelque chose de physique. Si tout ce que vous faites, c'est de vous asseoir, alors, pour être capable d'équilibrer ça, vous avez besoin de faire de l'activité physique. Ça peut être du patin aligné, ça peut être sauter à la corde, peu importe ce que ça peut être, vous avez besoin d'avoir quelque chose pour équilibrer ça. Si au contraire, vous avez un travail qui est physique, hein, qui est dur et difficile pendant toute la journée, alors vous avez besoin de quelque chose qui vous permet de vous reposer de façon à équilibrer votre vie aussi. Ça pourrait être de travailler, par exemple, à l'ordinateur, ou faire du graphisme. Ça pourrait être des jeux de famille ordinaires. Ça peut être lire un bon livre. Il y a un grand nombre de bons livres qui sont disponibles. C'est le genre de choses dont vous avez besoin, par exemple, pour être capable d'équilibrer une activité physique qui est intense. Peut-être est-ce que vous aimeriez faire de la voile, par exemple, ou quelque chose du genre qui exige beaucoup de travail mental, mais qui n'exige pas autant d'efforts physiques que le travail que vous accomplissez. Vous avez besoin de quelque chose qui vous donne une vue positive de la vie pendant vos temps libres. Alors, je ne vous recommande pas, par exemple, de regarder à la télévision La Rage en cage. Hein, vous savez, ces émissions de combats extrêmes. C'est le genre d'émissions que vous voyez à la télévision où vous avez deux gars qui sont mis à l'intérieur d'une cage et ils sont là et ils commencent à se battre l'un l'autre jusqu'à ce qu'aucun des deux ne soit capable de se tenir debout sur ses deux jambes. Vous devez vous demander, est-ce que c'est le genre d'activité qui va vous donner une vue positive de la vie? Je ne crois pas. Toute activité qui implique le péché n'est pas quelque chose qui va vous aider à avoir une vue positive de la vie. Vous ne serez pas heureux de votre jeu, de votre travail. Il faut toujours que ce soit quelque chose qui soit positif. Avez-vous déjà pensé à ce que Christ faisait? Rendons-nous dans Marc 6 maintenant pour voir quelques-unes des choses que Christ faisait après avoir eu une journée ardue, une bonne journée de travail. Marc 6 et verset 30. Nous allons lire le verset 30. Marc 6, 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors nous pouvons voir ici que même Christ réalisait le besoin qu'ils avaient de se reposer, de prendre un peu de temps libre. de s'éloigner de la routine dans laquelle ils étaient engagés avec toute cette multitude de gens autour d'eux. Alors, retournons maintenant dans Marc 7 et au verset 24. Alors, c'est peut-être une page ou deux plus loin. Marc 7 et verset 24. Alors, on peut y lire. « Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. » Alors, on voit que Christ voulait être seul un peu. Il voulait s'isoler. Parfois, si vous avez eu une journée qui était difficile, il n'est pas mauvais de pouvoir s'isoler un peu afin de méditer, d'être un peu à l'abri de ce surplus d'informations que nous expérimentons à chaque jour. Christ a voulu avoir un petit peu d'intimité, hein, au loin, s'éloigner un peu des gens avec lesquels il faisait affaire, tout simplement pour être capable de recharger ses batteries, hein, de se renouveler. Alors, rendons-nous maintenant au chapitre 5 de Matthieu, Matthieu 5, et au verset 1, et voyons ce que Christ a fait. Matthieu 5 et verset 1. Matthieu 5, 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit. Alors, on peut voir ici que Christ a gravi une montagne, chose que la majorité d'entre nous, ou plusieurs d'entre nous, avons fait à la fête à Snowbird, par exemple. Les montagnes sont habituellement très inspirantes. Elles sont éloignées des gens. Et, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui nous soulève. Et être entouré par toute cette beauté, par les arbres extraordinaires, la vue que nous avons vers le bas, nous sommes capables d'obtenir une perspective différente que lorsque nous sommes dans la vallée. En d'autres mots, il est mieux d'être sur la montagne et regarder alentour que d'être dans le bas de la vallée et se demander ce qui se passe en haut. Christ est donc monté sur la montagne et a enseigné ses disciples de façon privée ce qu'il fait aujourd'hui avec nous. Il enseigne à son peuple de façon privée. On peut également avoir un autre exemple de ce que Christ a fait dans Matthieu 14 et au commencement du verset 23. Matthieu 14, verset 23. Nous allons lire quelques versets. Matthieu 14, 23. Quand il l'eut renvoyé, la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Une des choses qu'on peut dire que le Christ a fait, c'est faire du bateau à voile, n'est-ce pas? Il a été à voile avec ses disciples, et il l'a fait à plusieurs reprises. Je ne suis pas sûr de pouvoir m'imaginer ce que c'est que de marcher sur l'eau, par exemple. Mais réfléchissez aux préoccupations ou à la façon dont il s'occupait de ses disciples. Il ne faut pas oublier que ceux-ci étaient isolés à plusieurs reprises. Tout ça parce qu'il voulait leur enseigner des choses très spécifiques. Mais Christ appréciait la détente de pouvoir se promener comme ça dans les montagnes et de se retrouver dans une zone tranquille où il pouvait parler tranquillement au Père. Donc, le principe numéro 3, nous devrions être heureux dans notre travail et dans les jeux et les loisirs. Donc, le principe numéro 3, nous devrions être heureux dans notre travail, tout comme dans nos loisirs. Nous allons maintenant au quatrième point qui nous aide à avoir le véritable bonheur. Le bonheur, c'est accepter et recevoir la correction. Alors, parlons de l'analogie où vous voyagez sur la route de la vie, et vous commencez tout à coup à vous sentir un petit peu perdu. vous ne savez pas exactement où vous trouvez ni où vous devez aller. Vous vous arrêtez, vous demandez des informations pour savoir dans quelle direction vous dirigez, et quelqu'un vous donne exactement l'endroit où vous voulez aller. Alors, quand une telle chose vous arrive dans la vie, vous êtes content, vous êtes heureux que ça vous arrive. On vient de vous corriger en vous disant et en vous dirigeant vers le bon endroit. Et vous êtes content et heureux de cela. Vous n'êtes plus perdu maintenant. Est-ce que chacun d'entre nous ne s'est pas senti un peu comme ça lorsqu'il est venu à l'Église? Alors, dans ce sens, le bonheur, c'est recevoir la correction de ce genre-là. Rendons-nous dans Job, au 5e chapitre, Job 5, parce que être corrigé nous conduit vraiment au bonheur. Alors, Job 5 et au verset 17. On va commencer par le verset 17, Job 5, 17. Alors, on peut lire, « Heureux l'homme que Dieu châtie. » Et ça pourrait être traduit par « corriger », comme ce livre en anglais. « Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Six fois il te délivrera de l'angoisse et sept fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. » Dieu nous dit ici que nous devrions être heureux lorsque nous sommes corrigés par lui. Il va nous délivrer après que nous allons avoir fait cette correction dans nos vies. Il est très important que nous comprenions bien ce principe. Rendons-nous maintenant dans Proverbe 3 et au verset 12. Proverbe 3, 12. Proverbe chapitre 3 et verset 12. On peut y lire. Ici aussi, le mot « châtie » est traduit en anglais par « corriger ». L'Éternel corrige celui qu'il aime. Dieu nous corrige et c'est quelque chose qui lui fait plaisir dans le sens qu'il connaît le résultat final. Hein? Il connaît le bonheur et le contentement que cela va apporter dans nos vies. Rendons-nous maintenant à un autre passage dans Hébreux 12. Encore une fois, un passage familier qui parle de l'amour de Dieu. Donc, le bonheur, c'est de recevoir la correction de la part de Dieu. Hébreux 12, en commençant au verset 6, nous dit ce qui suit. Hébreux 12, 6. « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Nous sommes en quelque sorte formés par la correction. Et ça a comme résultat dans nos vies d'être beaucoup, beaucoup plus heureux que nous l'étions auparavant. La question que je me pose, est-ce que nous devrions demander d'être corrigés? Est-ce que nous devrions demander à Dieu de nous corriger? Pour avoir la réponse, rendons-nous dans Jérémie 10 et en commençant au verset 23. Jérémie 10, 23. Jérémie 10, 23. « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité. » Autrement dit, « corrige-moi », c'est le mot, encore le même mot, « et non dans ta colère de peur que tu m'anéantisses. » Nous devrions demander à Dieu de nous corriger. Mais de toute évidence, avec justice et non pas de façon colérique. Dieu est en train de nous corriger, de nous châtier, si vous voulez, et ce serait beaucoup mieux si nous demandons à Dieu de le faire plutôt que d'être obligé d'attendre qu'il soit obligé de le faire à notre place. Allons maintenant à un autre passage des Écritures sur ce sujet-là. Rendons-nous dans Ésaïe 55, parce que le bonheur consiste à recevoir la correction de Dieu. Donc, Ésaïe 55, en commençant au verset 6. Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. En d'autres mots, si nous abandonnons nos voies, il est prêt à nous pardonner. Alors, on continue au verset 8 maintenant. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. En d'autres mots, encore une fois, lorsque Dieu nous corrige, cette correction doit avoir et aura un impact dans nos vies. Ça va provoquer un changement. Et si nous changeons selon la façon dont Dieu nous dirige, nous serons plus heureux. Donc, voilà le principe numéro 4. Le bonheur consiste à recevoir la correction. Nous passons maintenant au point numéro 5, qui est « Le bonheur consiste à obéir à Dieu ». Rendons-nous dans Jean, au chapitre 15, et nous allons commencer au verset 10. Jean 15 et verset 10. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Notre joie devrait être parfaite. Si nous observons la loi, nous sommes heureux, comme le dit Proverbe 29, 18. Rendons-nous maintenant dans Actes 5, Actes chapitre 5. Il y a un très grand nombre de passages qui parlent au sujet du bonheur si nous obéissons à Dieu. Alors, Actes, chapitre 5, et nous allons commencer au verset 29. Actes 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Donc, si nous poursuivons, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, et ce Saint-Esprit devient une source de toutes sortes de bonheur et de joie dans nos vies. C'est une source d'un esprit équilibré. Et comme je l'ai mentionné à la fête, les seules personnes dans le monde qui ont cet esprit équilibré, ce sont ceux à qui Dieu a donné son Saint-Esprit. Les autres n'ont pas cet équilibre spirituel, si vous voulez, ou cet équilibre dans leur esprit. Ce ne sont que ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui peuvent avoir ce genre d'esprit équilibré. Rendons-nous maintenant dans Ésaïe 58. C'est toujours une bénédiction merveilleuse, et ça devrait toujours nous rendre heureux de savoir que nous avons en nous l'Esprit de Dieu si nous le lui obéissons. Alors, Ésaïe 58, nous allons commencer au verset 13. Ésaïe 58, 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, essayez de réfléchir à toutes les bénédictions, tout le bonheur qui est entré dans votre vie parce que vous observez le sabbat divin. Vous lui obéissez. Vous en profitez pour vous reposer physiquement. Vous reposez également spirituellement, c'est un, en quelque sorte un rajeunissement. Vous faites de la fraternisation, de la communion avec les autres membres de l'Église, et tout cela vous rend heureux. Si vous demeurez dans les voies de Dieu et que vous observez le sabbat, vous devriez être heureux parce que vous lui obéissez. Rendons-nous maintenant dans Actes au chapitre 20. Nous allons commencer par lire le verset 35. Alors, c'est un passage que nous devrions connaître par cœur. Actes 20, 35. Actes, chapitre 20 et verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si nous obéissons à Dieu, c'est exactement ce qui va nous arriver. Nous allons être bénis encore davantage. Si vous deviez donner quelque chose à quelqu'un, une quantité d'une chose particulière, Dieu est en train de nous dire, en fait, que vous allez être encore plus bénis. Peut-être pas de la même façon, mais certainement avec davantage de connaissances, par exemple. Les gens qui donnent ont une meilleure compréhension du plan de Dieu, ce qui, en soi, est une bénédiction merveilleuse. Nous devons être des gens qui donnons. Il est toujours agréable de recevoir. Lorsque vous avez besoin d'aide, c'est merveilleux de pouvoir recevoir quelque chose. Mais la personne qui vous l'a donné va recevoir une bénédiction encore plus grande. Voilà une compréhension du plan de Dieu et de son dessein. Imaginez tout ce que Dieu donne. Il n'est donc pas étonnant, si vous voulez, qu'il soit heureux. Dieu est l'être le plus heureux de l'univers. Rendons-nous maintenant dans Exode 15 et au verset 26. L'obéissance apporte des bénédictions. Exode 15, verset 26. Exode 15, 26. Alors, nous parlons d'un cas ici où les gens sont dans le désert et Moïse est en train de parler. Exode 15, 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et pourtant, nous voyons aujourd'hui, à notre époque, le virus du Nil, par exemple, et toutes sortes d'autres maladies. Il avait dit, ici, dans ce passage, qu'il ne nous frapperait d'aucune maladie dont il avait frappé les Égyptiens, si nous lui obéissions. Alors, c'était une promesse qui s'adressait à nous. Alors, rendons-nous maintenant dans 1 Jean, au chapitre 2. 1 Jean 2, et au verset 5, 1 Jean 2, 5. L'obéissance à Dieu procure des bénédictions de santé, de prospérité et de joie. Alors, 1 Jean 2, 5. Alors, on peut lire, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » Encore ici, quelle merveilleuse bénédiction et quel bonheur d'être rempli de l'amour de Dieu parce que nous observons sa parole. Donc, le principe numéro 5, le bonheur, c'est obéir à Dieu. Nous passons maintenant au sixième principe. Le bonheur, c'est d'avoir une bonne relation familiale. Le bonheur, c'est d'avoir de bonnes relations familiales. Je me souviens qu'un des temps les plus heureux lorsque je grandissais, quand j'étais jeune, était celui de l'action de grâce. C'était un temps où toute la famille se réunissait. Or, j'avais plusieurs oncles, 3 ou 4, et 2 grands-pères. Et en tant que petit garçon, je m'asseyais un peu partout comme ça et j'écoutais toutes ces histoires que chacun racontait. J'écoutais par exemple un de mes oncles qui était un conducteur de camion. Il a conduit une grosse semi-remorque pendant quelques 30 années. Et une des histoires qu'il avait l'habitude de nous raconter, c'est le jour où il s'était rendu à l'hôtel de la Monnaie de Denver, par exemple, et qu'il avait apporté tout un chargement de sous noirs. Alors, imaginez la grosseur du cochonnet. Alors, bien entendu, pour être capable de faire ça, il avait besoin de toutes sortes de permissions et d'accréditations de sécurité. Mais Il s'était réellement rendu à cet hôtel de Molella à Denver et avait apporté tout un chargement de sous aux différentes banques, un peu partout. Bien entendu, le camion ne pouvait pas être plein de sous. Ça aurait été beaucoup trop pesant, mais il y en avait tout un gros chargement. Alors, c'était une des histoires intéressantes que j'aimais écouter. Je me souviens également que deux de mes oncles étaient des gens qui creusaient des puits. Un creusait un puits pour l'eau, et il y avait une entreprise en Iowa dont ses fils ont pris la relève aujourd'hui. L'autre était un ingénieur, et il travaillait sur des plateformes de forage pour l'huile. C'était toujours intéressant de les entendre parler au sujet de ces forages-là, de la façon dont ils le faisaient, de tous les problèmes qu'ils rencontraient et la façon dont ils les réglaient, ces problèmes-là. Ça a toujours été pour moi un temps de plaisir en tant qu'enfant d'écouter quelques-unes des histoires qui nous étaient racontées. Un autre de mes oncles était un gérant dans une grosse laiterie au Minnesota. Et quand je dis grosse laiterie, je veux réellement dire une grosse laiterie. Il mettait en bouteille quelque chose comme 20 produits différents pour différentes compagnies. Alors, il nous parlait comment faire du fromage cottage, par exemple, et dans des gros bacs. Et ce qui arrivait si l'électricité, par exemple, venait à manquer. Alors, on peut certainement dire que le bonheur se trouve aussi dans les relations familiales, n'est-ce pas? Être capable de se parler les uns avec les autres, de partager les bonnes choses de la vie, être en famille, se sentir en demande, se sentir aimé, être un enfant et sentir que les gens veulent bien de vous, tout cela nous procure le bonheur, n'est-ce pas? Le contentement, le bien-être. En d'autres mots, vous sentez que vous appartenez à une famille. Alors Dieu lui-même a dit qu'il bâtirait son Église. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il bâtit son Église. Il est en train de se bâtir une famille. Vous avez vu cette famille spirituelle-là à la fête des tabernacles. Alors, rendons-nous maintenant dans Genèse, au chapitre 12. Est-ce que Dieu accorde des bénédictions au moyen de la famille? Alors, jetons un coup d'œil dans Genèse, au chapitre 12. Nous allons commencer au verset 1. Genèse 12 et verset 1. Alors, on peut lire ici, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Les bénédictions proviennent de familles, des familles entre autres. Nous sommes bénis aujourd'hui à cause de ce que Abraham a fait. Posez-vous la question, y en a-t-il aujourd'hui qui sont bénis à cause de votre famille? Est-ce que d'autres personnes seront bénies à l'avenir à cause de la famille de Dieu? Oui. Donc, le bonheur est vraiment quelque chose qui peut provenir de relations familiales, et celles-ci vont promouvoir encore davantage de bonheur pour d'autres individus. On devrait se demander, est-ce que notre famille, à nous, promouvoit le bonheur chez les autres personnes? Alors, rendons-nous d'abord dans 1 Pierre 3 et au verset 5. 1 Pierre 3, 5. Donc, le bonheur est réellement une question de relation familiale. 1 Pierre 3, et nous allons commencer au verset 5. Qui parle, entre autres, de la relation entre les maris et les femmes. Alors, 1 Pierre 3, 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors voilà un exemple de bonne relation au sein de la famille. Est-ce que nous, en tant qu'hommes, honorons nos femmes comme étant un sexe plus faible? Est-ce que nous ouvrons, par exemple, la porte à nos épouses? Est-ce que nous apportons des choses qui sont pesantes au lieu de les leur laisser entre les mains? Est-ce que nous reconnaissons leur rôle particulier dans le mariage? Si oui, alors il n'y aura pas d'obstacle à nos prières. Donc, le bonheur, c'est d'avoir le bon genre de relation entre un homme et son épouse, sa femme, au sein d'une famille, au sein de la famille de Dieu. Et c'est certainement quelque chose que Dieu désire. Rendons-nous maintenant dans 1 Jean et au premier chapitre, 1 Jean 1. Je dis ça parce que parmi les événements les plus importants de votre vie, ce sont ceux que vous allez partager au sein de votre famille, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à réfléchir à votre propre vie et à tous les événements merveilleux qui sont survenus et tout ce que vous avez partagé avec votre famille. Peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, c'est le genre de choses que vous voulez partager avec les membres de votre famille. S'il y a quelque chose de bien qui se passe, vous avez par exemple une promotion à votre travail, vous avez réussi à atteindre un de vos buts de votre vie, c'est le genre de choses que vous voulez leur dire. Sinon, c'est quelque chose comme un sentiment vide que nous ressentons si nous n'avons personne pour le partager, n'est-ce pas? Vous aimez pouvoir en parler avec les gens qui sont autour de vous. Vous aimez pouvoir raconter comment vous avez dû vous combattre, batailler pour être capable d'y arriver, comment vous avez dû vaincre certains obstacles, ou encore comment vous avez appris qu'il fallait faire telle ou telle chose, comment vous avez appris à améliorer votre vie. Vous aimez pouvoir partager ceci à l'intérieur d'une relation familiale. Alors, réfléchissons à cet aspect de la relation familiale. 1 Jean 1, et au verset 3 maintenant, 1 Jean 1, 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous êtes en communion avec Dieu? Est-ce que vous partagez votre vie avec Dieu? Fait-il partie de votre famille? Est-il en train de créer une famille? Partagez-vous toute votre vie avec lui? Est-ce que vous le remerciez pour ses bénédictions? Est-ce que vous le remerciez pour vous permettre d'être dans sa famille? Est-ce que vous le remerciez d'avoir l'occasion de contribuer au fait que d'autres personnes peuvent aussi joindre cette famille-là? Vous avez reçu la possibilité et la responsabilité d'aider d'autres personnes de faire partie de la famille de Dieu. C'est quelque chose pour lequel vous devriez remercier Dieu, parce que cela fait partie aussi du bonheur d'une relation familiale. Et ce bonheur nous est procuré par la capacité que nous avons de parler avec Dieu et de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous permettre d'être dans sa famille. Alors nous passons maintenant au septième point du véritable bonheur. Le bonheur, c'est savoir que Dieu nous a donné ce qu'il y a de meilleur. Dieu nous a donné ce qu'il y a de meilleur. Le meilleur possible. Est-ce que c'est le genre de choses auxquelles nous pensons parfois, à la fête, entre autres? Rendons-nous maintenant dans Matthieu 13. Et posez-vous la question, est-ce que nous réfléchissons parfois aux promesses que Dieu nous a faites? Ce sont des promesses qu'on pourrait appeler ultimes. Et c'est le genre de promesses que nous ne pouvons retrouver nulle part ailleurs. Matthieu 13 et au verset 44. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Frères et sœurs, chacun d'entre nous avons cette perle de grand prix. Nous avons ce champ qui renferme un trésor. Vous n'avez qu'à penser à Jean 17, 17. Hein? Nous connaissons tous cela par cœur. Nous sommes mis à part, nous sommes sanctifiés par la vérité. nous sommes sanctifiés comme un peuple saint par la vérité divine. Il y a 6,5 milliards de personnes sur cette terre. Combien y en a-t-il parmi elles qui comprennent véritablement la vérité? Combien parmi elles sont véritablement libres? Rendons-nous maintenant dans Jean, au chapitre 8. Combien y a-t-il de personnes qui sont réellement libres sur cette terre? Et pourtant, vous et moi avons été affranchis, libérés. Jean, chapitre 8, et au verset 31. Jean 8, 31. Alors, on parle de Jésus ici, qui dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alors, je vous repose la question, des 6,5 milliards de personnes qui sont sur cette terre, combien y en a-t-il qui sont réellement libres? Seulement une poignée de personnes. Alors, comme nous pouvons le voir, Dieu nous a donné ce qu'il y a de meilleur. Hein, le meilleur de tout. Hébreux 13, maintenant, et au verset 5. Hébreux 13, verset 5, un autre passage que nous connaissons. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Quelle promesse extraordinaire! Dieu a dit qu'il ne nous laisserait jamais, qu'il ne nous abandonnerait jamais. Pour nous, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Il est difficile à comprendre que Dieu est toujours là, disponible pour nous. Dieu nous a donné ce qu'il y a, comme je l'ai mentionné plus tôt, de meilleur. Rendons-nous maintenant dans Jean 15, verset 14. Jean 15, 14. Jean, chapitre 15 et verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Combien y a-t-il de personnes aujourd'hui dans le monde qui peut se vanter d'être appelé l'ami de Dieu? Vous connaissez certainement un bon nombre de personnes dans le monde aujourd'hui qui aiment se vanter de leurs relations. Ce sont le genre de personnes qui aiment laisser tomber un nom ici, un nom là, de temps à autre. Ils utilisent cette méthode pour être capables d'ouvrir les portes devant eux, pour essayer de bénéficier de certains avantages. Mais réfléchissez un instant. Dieu vous appelle son ami. Combien y a-t-il de personnes dans le monde aujourd'hui qui peuvent dire une telle chose? Très peu. Rendons-nous maintenant dans Luc 12 et au verset 32. Hein, Luc 12, 32. Je dis cela parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il y a de meilleur sur tous les plans. Nous devons faire partie de la première résurrection, ce qui est la meilleure des résurrections. Et regardez ce que dit Luc 12, 32 à ce sujet. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Quelle extraordinaire promesse! Rendons-nous maintenant dans Daniel 7 et au verset 27. Daniel 7, 27. Donc, le bonheur, c'est reconnaître également que Dieu nous a donné ce qu'il y a de meilleur, les récompenses ultimes, les bénédictions ultimes. Daniel 7 et verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Alors, je le répète, hein, Dieu donne le royaume à son peuple, à ses saints. Rendons-nous maintenant dans Hébreux au chapitre 2. Alors, quand on parle d'un héritage, hein? Vous et moi avons cet héritage-là. Hébreux 2, et au verset 5 maintenant. Hébreux 2, 5. Hébreux chapitre 2 et verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Donc, nous avons tout un héritage. Alors, réfléchissons au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les gens du dehors ici, les gens qui sont dans le monde, auront-ils ce genre d'héritage-là? Certainement pas dans ce monde physique-ci. Ils vont le perdre, ils vont tout perdre. Le monde dans lequel nous vivons est en train de s'effondrer. Tous les baby-boomers qui pensaient pouvoir hériter de la richesse de leurs parents ou de la richesse de leur fonds de pension vont toutes perdre ces choses-là. Ils n'auront pas d'héritage. Mais qu'en est-il de vous et moi? Même si nous perdons toutes nos possessions physiques, nous avons un héritage qui nous est donné. Rendons-nous maintenant dans Apocalypse 21 et au verset 7. Apocalypse 21, chapitre 21 et verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Nous avons l'héritage le plus merveilleux que quiconque puisse avoir. Donc, le bonheur, c'est aussi savoir que Dieu nous a réellement donné ce qu'il y a de meilleur, qu'il a en réserve ce qu'il y a de meilleur pour vous comme pour moi. Frères et sœurs, nous avons vu que le bonheur n'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça à chacun de nous. Ça dépend de ce que nous faisons. Ça dépend de la façon dont nous réagissons dans toutes les circonstances. Essayons de résumer. Le bonheur, c'est se confier et s'en remettre à Dieu. C'est d'aller devant lui avec nos problèmes et nos difficultés et lui remettre entre les mains pour qu'il puisse régler les problèmes que nous avons, afin d'enlever le poids de sur nos épaules. Le monde n'a pas cette bénédiction-là. Le bonheur, c'est un sous-produit de la sagesse qui provient de Dieu. Pouvoir faire et prendre des décisions sages nous apporte le bonheur et de la joie dans nos vies. Le bonheur, c'est d'avoir de la satisfaction dans notre travail et dans nos loisirs. Le bonheur, c'est aussi recevoir la correction. Le bonheur, c'est d'obéir à Dieu, qui nous accorde des bénédictions. Le bonheur, c'est d'être dans une relation familiale. C'est de pouvoir profiter de tout l'amour et de tout le confort que peut nous apporter une famille, par exemple. Le bonheur, c'est de trouver ce qu'il y a de meilleur, sachant que Dieu nous a apporté ce qu'il y a de meilleur. Nous ne trouvons pas le bonheur. C'est Dieu qui nous apporte les bénédictions et les récompenses ultimes. Rendons-nous maintenant dans Philippiens. Philippiens au chapitre 4. Philippiens 4, 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. En d'autres mots, peu importe l'état dans lequel nous sommes, Dieu peut nous aider à être heureux, même si nous n'avons pas beaucoup de choses, beaucoup de richesses ou de quoi que ce soit d'autre. Dieu peut s'arranger pour que nous soyons heureux de toutes sortes de façons merveilleuses. Mais qu'en est-il de ceux qui sont dans le monde? Est-ce qu'il y aura jamais vraiment de bonheur réel sur cette terre? Rendons-nous dans Ésaïe, au chapitre 51 maintenant. Ésaïe 51 et verset 3. Ésaïe 51, 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Oui, on peut dire que la joie et le bonheur vont venir sur cette terre et que nous ferons partie de ceux qui apporteront ceci à la terre. Quelle extraordinaire bénédiction! Nous devons apprendre à être heureux aujourd'hui. Ceux qui apprennent à être heureux aujourd'hui vont pouvoir aider les autres à l'avenir à devenir également heureux. Le bonheur, c'est revenir vers la planète Terre. Et nous savons que le bonheur, c'est aussi vivre en harmonie avec les voies divines.